Chants forts, maximes et pensées, chapitre 7, des savants et des gens de lettres. 417. Il y a une certaine énergie ardente, mère ou compagne nécessaire de telle espèce de talent, laquelle, pour l'ordinaire, condamne ceux qui les possèdent au malheur, non pas d'être sans morale, de n'avoir pas de très beaux mouvements, mais de se livrer fréquemment à des écarts qui supposeraient l'absence de toute morale. C'est une âpreté dévorante dont ils ne sont pas maîtres et qui les rend très odieux. On s'afflige que Pope et Swift en Angleterre, Voltaire et Rousseau en France, jugés non par la haine, non par la jalousie, mais par l'équité, par la bienveillance, sur la foi des faits attestés ou avoués par leurs amis et par leurs admirateurs, seraient atteints et convaincus d'actions très condamnables, de sentiments quelquefois très pervers. Ô altitudo! 418. On a observé que les écrivains en physique, histoire naturelle, physiologie, chimie, étaient ordinairement des hommes d'un caractère doux, égal et en général heureux. Au contraire, les écrivains de politique, de législation, même de morale, étaient d'une humeur triste, mélancolique, etc. Rien de plus simple, les uns étudient la nature, les autres la société. Les uns contemplent l'ouvrage du grand être, les autres arrêtent leur regard sur l'ouvrage de l'homme. Les résultats doivent être différents. 419. Si l'on examinait avec soin l'assemblage des qualités rares de l'esprit et de l'âme qu'il faut pour juger, sentir et apprécier les bons vers, le tact, la délicatesse des organes, de l'oreille et de l'intelligence, etc., on se convaincrait que malgré les prétentions de toutes les classes de la société à juger les ouvrages d'agrément, les poètes ont dans le fait encore moins de vrais juges que les géomètres. Alors les poètes, comptant le public pour rien et ne s'occupant que des connaisseurs, feraient à l'égard de leurs ouvrages ce que le fameux mathématicien Viète faisait à l'égard des siens, dans un temps où l'étude des mathématiques était moins répandue qu'aujourd'hui. Il n'en tirait qu'un petit nombre d'exemplaires qu'il faisait distribuer à ceux qui pouvaient l'entendre et jouir de son livre ou s'en aider. Quant aux autres, il n'y pensait pas. Mais Viète était riche, et la plupart des poètes sont pauvres. Puis, un géomètre a peut-être moins de vanité qu'un poète, ou s'il en a autant, il doit la calculer mieux. 420. Il y a des hommes chez qui l'esprit, cet instrument applicable à tout, n'est qu'un talent, par lequel il semble dominer, qu'il ne gouverne pas et qui n'est point aux ordres de leur raison. 421. Je dirais volontiers des métaphysiciens ce que Scaliger disait des Basques. On dit qu'ils s'entendent, mais je n'en crois rien. 422. Le philosophe qui fait tout pour la vanité a-t-il droit de mépriser le courtisan qui fait tout pour l'intérêt? Il me semble que l'un emporte les louis d'or et que l'autre se retire content après en avoir entendu le bruit. D'Alembert, courtisan de Voltaire par un intérêt de vanité, est-il bien au-dessus de tel ou tel courtisan de Louis XIV qui voulait une pension ou un gouvernement? 423. Quand un homme aimable ambitionne le petit avantage de plaire à d'autres qu'à ses amis, comme le font tant d'hommes, surtout de gens de lettres, pour qui plaire est comme un métier, Il est clair qu'il ne peut y être porté que par un motif d'intérêt, de vanité. Il faut qu'il choisisse entre le rôle d'une courtisane et celui d'une coquette, ou si l'on veut, d'un comédien. L'homme qui se rend aimable pour une société parce qu'il s'y plaît est le seul qui joue le rôle d'un honnête homme. 424. Quelqu'un a dit que de prendre sur les anciens, c'était pirater au-delà de la ligne, mais que de piller les modernes, c'était filouter au coin des rues. 425. Les vers ajoutent de l'esprit à la pensée de l'homme qui en a quelquefois assez peu. Et c'est ce qu'on appelle talent. Souvent, ils ôtent de l'esprit à la pensée de celui qui a beaucoup d'esprit. Et c'est la meilleure preuve de l'absence du talent pour les vers. 426. La plupart des livres d'à présent ont l'air d'avoir été faits en un jour avec des livres lus de la veille. 427. Le bon goût, le tact et le bon ton ont plus de rapport que n'affectent de le croire les gens de lettres. Le tact, c'est le bon goût appliqué au maintien et à la conduite. Le bon ton, c'est le bon goût appliqué au discours et à la conversation. 428. C'est une remarque excellente d'Aristote dans sa rhétorique que toute métaphore fondée sur l'analogie doit être également juste dans le sens renversé. Ainsi, l'on a dit de la vieillesse qu'elle est l'hiver de la vie. Renversez la métaphore et vous la trouverez également juste en disant que l'hiver est la vieillesse de l'année. 429. Pour être un grand homme dans les lettres, ou du moins opérer une révolution sensible, il faut, comme dans l'ordre politique, trouver tout préparé et naître à propos. 430. Les grands seigneurs et les beaux esprits, deux classes qui se recherchent mutuellement, veulent unir deux espèces d'hommes dont les uns font un peu plus de poussière et les autres un peu plus de bruit. 431. Les gens de lettres aiment ceux qu'ils amusent, comme les voyageurs aiment ceux qu'ils étonnent. 432. Qu'est-ce qu'un homme de lettres qui n'est pas rehaussé par son caractère, par le mérite de ses amis et par un peu d'aisance? Si ce dernier avantage lui manque au point qu'il soit hors d'état de vivre convenablement dans la société où son mérite l'appelle, qu'a-t-il besoin du monde? Son seul parti n'est-il pas de se choisir une retraite où il puisse cultiver en paix son âme, son caractère et sa raison? Faut-il qu'il porte le poids de la société sans recueillir un seul désavantage qu'elle procure aux autres classes de citoyens? Plus d'un homme de lettres forcé de prendre ce parti y a trouvé le bonheur qu'il eût cherché ailleurs vainement. C'est celui-là qui peut dire qu'en lui refusant tout, on lui a tout donné. Dans combien d'occasions ne peut-on pas répéter le mot de Thémistocle? Hélas, nous périssions si nous n'eussions péri. 432. On dit et on répète, après avoir lu quelque ouvrage qui respire la vertu, c'est dommage que les auteurs ne se peignent pas dans leurs écrits et qu'on ne puisse pas conclure d'un pareil ouvrage que l'auteur est ce qu'il paraît être. Il est vrai que beaucoup d'exemples autorisent cette pensée. Mais j'ai remarqué qu'on fait souvent cette réflexion pour se dispenser d'honorer les vertus dont on trouve l'image dans les écrits d'un honnête homme. 434. Un auteur, homme de goût, est parmi ce public blasé ce qu'une jeune femme est au milieu d'un cercle de vieux libertins. 435. Peu de philosophie mène à mépriser l'érudition. Beaucoup de philosophie mène à l'estimer. 436. Le travail du poète, et souvent de l'homme de lettres, lui est bien peu fructueux à lui-même. Et de la part du public, il se trouve placé entre le grand merci et le va te promener. Sa fortune se réduit à jouir de lui-même et du temps. 437. Le repos d'un écrivain qui a fait de bons ouvrages est plus respecté du public que la fécondité active d'un auteur qui multiplie les ouvrages médiocres. C'est ainsi que le silence d'un homme connu pour bien parler impose beaucoup plus que le bavardage d'un homme qui ne parle pas mal. 438. Ce qui fait le succès de quantité d'ouvrages est le rapport qui se trouve entre la médiocrité des idées de l'auteur et la médiocrité des idées du public. 439. À voir la composition de l'Académie française, on croirait qu'elle a pris pour devise ce vers de Lucrèce. Certare ingenio, contendere nobilitate. 440. L'honneur d'être de l'Académie française est comme la croix de Saint-Louis, qu'on voit également au souper de Marly et dans les auberges à 22 sols. 441. L'Académie française est comme l'opéra qui se soutient par des choses étrangères à lui, les pensions qu'on exige pour lui, des opéras de province, la permission d'aller du parterre au foyer, etc. De même, l'Académie se soutient par tous les avantages qu'elle procure. Elle ressemble à la Cydalise de Gresset. Ayez-la, c'est d'abord ce que vous lui devez, et vous l'estimerez après si vous pouvez. 442. Il en est un peu des réputations littéraires, et surtout des réputations de théâtre, comme des fortunes qu'on faisait autrefois dans les îles. Il suffisait presque autrefois d'y passer pour parvenir à une grande richesse. Mais ces grandes fortunes mêmes ont nui à celles de la génération suivante. Les terres épuisées n'ont plus rendu si abondamment. 443. De nos jours, les succès de théâtre et de littérature ne sont guère que des ridicules. 444. C'est la philosophie qui découvre les vertus utiles de la morale et de la politique. C'est l'éloquence qui les rend populaires. C'est la poésie qui les rend, pour ainsi dire, proverbiales. 445. Un sophiste éloquent, mais dénué de logique, est un orateur philosophe, ce qu'un faiseur de tours de passe-passe est à un mathématicien, ce que Pinetti est à Archimède. 446. On n'est point un homme d'esprit pour avoir beaucoup d'idées, comme on n'est pas un bon général pour avoir beaucoup de soldats. 447. On se fâche souvent contre les gens de lettres qui se retirent du monde. On veut qu'ils prennent intérêt à la société dont ils ne tirent presque point d'avantage. On veut les forcer d'assister éternellement au tirage d'une loterie où ils n'ont point de billets. 448. Ce que j'admire dans les anciens philosophes, c'est le désir de conformer leurs mœurs à leurs écrits. C'est ce que l'on remarque dans Platon, Théophraste et plusieurs autres. La morale pratique était si bien la partie essentielle de leur philosophie que plusieurs furent mis à la tête des écoles sans avoir rien écrit, tels que Xénocrate, Polémon, Œsype, etc. Socrate, sans avoir donné un seul ouvrage et sans avoir étudié aucune autre science que la morale, n'en fut pas moins le premier philosophe de son siècle. 449. Ce qu'on sait le mieux, c'est premièrement ce qu'on a deviné. Deuxièmement, ce qu'on a appris par l'expérience des hommes et des choses. Troisièmement, ce qu'on a appris non dans les livres, mais par les livres, c'est-à-dire par les réflexions qu'ils font faire. Quatrièmement, ce qu'on a appris dans les livres ou avec des maîtres. 450. Les gens de lettres, surtout les poètes, sont comme les paons à qui on jette mesquinement quelques graines dans leur loge et qu'on en tire quelquefois pour les voir étaler leur queue, tandis que les coqs, les poules, les canards et les dindons se promènent librement dans la basse-cour et remplissent leurs jabots tout à leur aise. 451. Les succès produisent les succès, comme l'argent produit l'argent. 452. Il y a des livres que l'homme qui a le plus d'esprit ne saurait faire sans un carrosse de remise, c'est-à-dire sans aller consulter les hommes, les choses, les bibliothèques, les manuscrits, etc. 453. Il est presque impossible qu'un philosophe, qu'un poète, ne soit pas misanthrope. Premièrement, parce que leur goût et leur talent les portent à l'observation de la société, étude qui afflige constamment le cœur. Deuxièmement, parce que leur talent n'étant presque jamais récompensé par la société, heureux-mêmes s'il n'est pas puni, ce sujet d'affliction ne fait que redoubler leur penchant à la mélancolie. 454. Les mémoires que les gens en place ou les gens de lettres, même ceux qui ont passé pour les plus modestes, laissent pour servir à l'histoire de leur vie, trahissent leur vanité secrète et rappellent l'histoire de ce saint qui avait laissé 100 000 écus pour servir à sa canonisation. 455. C'est un grand malheur de perdre par notre caractère les droits que nos talents nous donnent sur la société. 456. C'est après l'âge des passions que les grands hommes ont produit leurs chefs-d'œuvre, comme c'est après les éruptions des volcans que la terre est plus fertile. 457. La vanité des gens du monde se sert habilement de la vanité des gens de lettres. Ceux-ci ont fait plus d'une réputation qui a mené à de grandes places. D'abord, de part et d'autre, ce n'est que du vent. Mais les intrigants adroits enflent de ce vent les voiles de leur fortune. 458. Les économistes sont des chirurgiens qui ont un excellent scalpel et un bistouri ébréché, opérant à merveille sur le mort et martyrisant le vif. 459. Les gens de lettres sont rarement jaloux des réputations, quelquefois exagéré, qu'ont certains ouvrages de gens de la cour. Ils regardent ces succès comme les honnêtes femmes regardent la fortune des filles. 460. Le théâtre renforce les mœurs ou les change. Il faut de nécessité qu'il corrige le ridicule ou qu'il le propage. On l'a vu en France opérer tour à tour ces deux effets. 461. Plusieurs gens de lettres croient aimer la gloire et n'aiment que la vanité. Ce sont deux choses bien différentes et même opposées, car l'une est une petite passion, l'autre en est une grande. Il y a, entre la vanité et la gloire, la différence qu'il y a entre un fat et un amant. 462. La postérité ne considère les gens de lettres que par leurs ouvrages et non par leur place. Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été semble être sa devise. 463. Sperone Speroni explique très bien comment un auteur qui s'énonce très clairement pour lui-même est quelquefois obscur pour son lecteur. C'est, dit-il, que l'auteur va de la pensée à l'expression et que le lecteur va de l'expression à la pensée. 464. Les ouvrages qu'un auteur fait avec plaisir sont souvent les meilleurs, comme les enfants de l'amour sont les plus beaux. 465. En fait de beaux-arts, et même en beaucoup d'autres choses, on ne sait bien que ce que l'on n'a point appris. 466. Le peintre donne une âme à une figure, et le poète prête une figure à un sentiment et à une idée. 467. Quand la fontaine est mauvaise, c'est qu'il est négligé. Quand la motte l'est, c'est qu'il est recherché. 468. La perfection d'une comédie de caractère consisterait à disposer l'intrigue de façon que cette intrigue ne pût servir à aucune autre pièce. Peut-être n'y a-t-il au théâtre que celle du Tartuffe qui put supporter cette épreuve. 469. Il y aurait une manière plaisante de prouver qu'en France, les philosophes sont les plus mauvais citoyens du monde. La preuve, la voici. C'est qu'ayant imprimé une grande quantité de vérités importantes dans l'ordre politique et économique, ayant donné plusieurs conseils utiles, consignés dans leurs livres, ces conseils ont été suivis par presque tous les souverains de l'Europe, presque partout, hors de France, dont il suit que la prospérité des étrangers augmentant leur puissance, tandis que la France reste au même terme, conserve ses abus, etc., elle finira par être dans l'état d'infériorité relativement aux autres puissances. Et c'est évidemment la faute des philosophes. On sait, à ce sujet, la réponse du duc de Toscane à un Français à propos des heureuses innovations faites par lui dans ses États. « Vous me louez trop à cet égard, disait-il. J'ai pris toutes mes idées dans vos livres français. » 470. J'ai vu à Anvers, dans une des principales églises, le tombeau du célèbre imprimeur Plantin, orné de tableaux superbes, ouvrages de Rubens et consacrés à sa mémoire. Je me suis rappelé à cette vue que les Estiennes, Henri et Robert, qui, par leur érudition grecque et latine, ont rendu les plus grands services aux lettres, traînèrent en France une vieillesse misérable, et que Charles Estienne, leur successeur, mourut à l'hôpital après avoir contribué presque autant qu'eux au progrès de la littérature. je me suis rappelé qu'André Duchesne, qu'on peut regarder comme le père de l'histoire de France, fut chassé de Paris par la misère et réduit à se réfugier dans une petite ferme qu'il avait en Champagne. Il se tua en tombant du haut d'une charrette chargée de foin à une hauteur immense. Adrien de Valois, créateur de l'histoire métallique, n'eut guère une meilleure destinée. Sanson, le père de la géographie, allait à 70 ans faire des leçons, à pied, pour vivre. Tout le monde sait la destinée des Durière, Tristan, Ménard et de tant d'autres. Corneille manquait de bouillon à sa dernière maladie. La Fontaine n'était guère mieux. Si Racine, Boileau, Molière et Quinault eurent un sort plus heureux, c'est que leur talent était consacré au roi plus particulièrement. L'abbé de Longuerue, qui rapporte et rapproche plusieurs de ses anecdotes sur le triste sort des hommes de lettres illustres en France, ajoute « C'est ainsi qu'on en a toujours usé dans ce misérable pays. » Cette liste si célèbre des gens de lettres que le roi voulait pensionner et qui fut présenté à Colbert, était l'ouvrage de Chapelain, Perrault, Tallemant, l'abbé Gallois, qui omirent ceux de leurs confrères qu'ils haïssaient, tandis qu'ils y placèrent les noms de plusieurs savants étrangers, sachant très bien que le roi et le ministre seraient plus flattés de se faire louer à 400 lieues de Paris.